Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 octobre 2022. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les maisons d'édition françaises accusées de sionisme chassées du Festival du Livre de Beyrouth. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'ennemi sème le chaos pour empêcher la croissance économique de l'Iran, déplore le président Raïsi. Le chef de la diplomatie iranienne qualifie le comportement américain d'hypocrite. Et puis la Chine s'oppose à toute sanction unilatérale et illégale contre l'Iran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Ebrahim Raïsi a déclaré que l'Iran était déterminé à gagner la guerre des sanctions imposées par les États-Unis et autres adversaires, citant une croissance de 13% des exportations non pétrolières au cours de cet exercice fiscal iranien. Le président Raïsi a souligné que ceux qui ont imposé des sanctions contre l'Iran visaient à empêcher le pays de connaître la croissance. Ils sapent donc sa production et ses exportations, a-t-il dit. Rappelant que le département du Trésor américain a créé de nombreux obstacles pour les exportateurs iraniens du monde entier, le président a indiqué « Les ennemis veulent que l'Iran soit un simple consommateur ». Qu'ils sachent que les fabricants, les producteurs et les hommes d'affaires iraniens sont déterminés à promouvoir les exportations car on assiste aujourd'hui à une augmentation des demandes pour des produits de qualité fabriqués en Iran, y compris du matériel militaire. Ces bonnes évolutions ont irrité les ennemis de l'Iran qui ne veulent pas que le pays se développe et conquiert des marchés, a insisté le président. L'Union européenne et les États-Unis ont récemment durci les sanctions contre l'Iran, ciblant cette fois les protecteurs de la sécurité et de la sûreté du peuple iranien face aux récentes émeutes soutenues par l'Occident. Ils donnent refuge pourtant aux terroristes qui ont assassiné 17 000 Iraniens innocents. Les pays occidentaux ont systématiquement violé et violent toujours les droits de millions de civils iraniens en raison de la mise en œuvre de sanctions unilatérales et cruelles orchestrées par les États-Unis et s'opposent en même temps les défenseurs des droits de l'homme et des intérêts du peuple iranien. L'Iran a condamné les commentaires contradictoires formulés par les responsables américains sur les négociations visant à relancer l'accord nucléaire de 2015 en agonie depuis le retrait unilatéral des États-Unis du pacte multilatéral. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, affichant son étonnement de la politique ambiguë de Washington, a déclaré « Les autorités américaines continuent d'échanger des messages avec Téhéran » tout en attisant les flammes des émeutes antigouvernementales en Iran. Nous ne nous sommes pas pourtant surpris par les Américains. Ils ont l'habitude de parler d'une manière et d'agir d'une autre manière, a-t-il fustigé. Le chef de la diplomatie iranienne affirme que les responsables américains cherchent à exercer une pression politique dans le but d'arracher des concessions à l'Iran lors des négociations nucléaires. Les déclarations tenues par le très haut diplomate iranien étaient en guise de réponse directe aux allégations avancées par les autorités américaines, selon lesquelles les négociations de relance du plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015 ne sont plus à l'ordre du jour de Washington. Rejetant les allégations, Hossein Amir Abdollahian a déclaré « Notre évaluation des messages émis du côté américain à notre adresse, même ces derniers jours, est que non seulement c'est la priorité des Américains de parvenir à un accord, mais encore ils sont pressés pour le faire. C'est une priorité pour les Américains de parvenir à un accord et qu'ils le veulent même le plus tôt possible », a-t-il insisté. Les Américains parlent différemment lorsqu'ils annoncent leur position pour leur opinion publique intérieure et lorsqu'ils tentent à provoquer des évolutions intéressées à l'intérieur de l'Iran. C'est une tactique et un exemple de paradoxe comportemental qui représente les États-Unis, a conclu Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que nous ne nous sommes pas surpris par le comportement hypocrite des Américains, avant d'ajouter ils parlent d'une manière et agissent d'une autre manière car ils recherchent une pause médiatique. Amir Abdollahian a réitéré sur le fait qu'il est important pour Téhéran que les forces étrangères n'interfèrent pas dans la région et dans nos affaires domestiques, pointant toujours du doigt les incohérences dans le comportement des responsables américains envers l'Iran, le ministre des Affaires étrangères a poursuivi « Nous sommes d'accord sur certaines questions et comprenons leurs problèmes internes, mais nous ne leur permettrons pas d'inciter au chaos et aux troubles en Iran avec des messages et des discours contre-productifs et d'appeler en même temps l'Iran à s'asseoir à la table des négociations. » Aujourd'hui, l'opinion publique a besoin d'informations précises. Aujourd'hui, un responsable du ministère des Affaires étrangères transmet son message à l'Iran qu'il est préoccupé par le sort de l'accord, mais dans un geste médiatique, il réagit autrement et déclare que les négociations ne sont pas la première priorité de Washington. Ce n'est pas acceptable et ce comportement de l'Amérique est hypocrite, insiste le très haut diplomate iranien. S'attardant sur la position de Téhéran envers les négociations nucléaires, il a souligné « Le gouvernement iranien est pour la poursuite des négociations en faveur d'un bon accord fiable et durable. Nous avons libéré des prisonniers américains, manière de faire preuve de la bonne volonté et d'un comportement humanitaire. » Concernant nos relations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous sommes parvenus à des accords et nous le mettrons en œuvre dans le cadre de nos engagements, a conclu le chef de la diplomatie. La Chine s'oppose à toute sanction unilatérale et illégale contre l'Iran. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a annoncé « Pékin s'oppose à toute sanction unilatérale et illégale contre l'Iran ». Suite à l'imposition de sanctions de l'Union européenne contre l'Iran, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré « Pékin est contre l'imposition de toute sanction unilatérale et illégale contre l'Iran sans l'ordre du Conseil de sécurité des Nations unies et sans respecter le droit international ». L'Union européenne a récemment sanctionné 3 commandants militaires iraniens de haut rang et une société de fabrication de drones iraniens sous prétexte de fabriquer et d'envoyer des drones en Russie pour la guerre en Ukraine. Enfin, le conseiller du président Raïssi dans le domaine des affaires ethniques et les minorités religieuses a rencontré la famille de Mahsa Amini. En vue de renforcer la cohésion nationale et afin de déjouer les complots des ennemis de la sécurité du peuple iranien, Abdussalam Karimi, le conseiller du président dans les affaires ethniques et des minorités religieuses, a rencontré la famille de Mahsa Amini. tout en exprimant les profondes tristesses du gouvernement iranien pour le décès de Mahsa Amini, le conseiller du président de la République islamique d'Iran a insisté sur les grandes capacités de l'administration iranienne dans le domaine de poursuivre juridiquement les revendications logiques. Lors de la rencontre, le père de Mahsa Amini a annoncé ses revendications et a insisté sur la supervision du président Raisi sur le dossier du décès de sa fille. Les maisons d'édition françaises accusées de sionisme, chassées du Festival du Livre de Beyrouth. Des auteurs français accusés de promouvoir le sionisme ont renoncé à participer à un festival littéraire organisé par la France au Liban qui s'est ouvert le mercredi 19 octobre. Du 19 au 30 octobre, l'Institut français du Liban organise Beyrouth Livre, festival littéraire francophone et international composé d'une centaine d'événements, à savoir expositions, lectures, débats, projections, spectacles, concerts, etc. Une centaine d'auteurs francophones du monde entier ont été invités à participer à ce festival baptisé Beyrouth Livre. Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mortada, avait accusé le 8 octobre certains auteurs participant au festival, sans les nommer, de soutenir le sionisme avant de retirer son communiqué des réseaux sociaux. Monsieur Mortada a critiqué la présence d'auteurs ayant embrassé les projets sionistes dans la pensée et dans la pratique, les soutenant aussi bien dans leurs travaux littéraires que dans leur vie quotidienne. Le ministre s'adressait notamment aux autorités françaises, poursuivant « Votre pays ne permettrait pas à des militants du Liban de se rendre dans votre pays pour critiquer le droit des pratiques sionistes. Et en retour, nous ne nous permettrons pas à des sionistes de diffuser le venin du sionisme au Liban, même si, en apparence, ils semblent détenir les passeports de votre pays. » Le ministre de la Culture s'est ensuite entretenu avec l'ambassadrice de France au Liban, Anne Grillo. Interrogée par le quotidien libanais francophone L'Orient le Jour, M. Mortada a expliqué « Nous avons eu vent de la participation à l'événement d'auteurs connus pour promouvoir une pensée israélienne et nous nous demandons ce qu'ils viennent faire au Liban. Nous avons fait nos recherches et avons effectivement trouvé que plusieurs d'entre eux ont de tels projets et nous avons fait part de nos réserves à l'ambassadrice française. » 5 auteurs français ont visiblement pris acte de propos de M. Mortada et annoncé l'annulation de leur participation à Beyrouth Livre. Parmi eux, 4 membres de l'Académie Goncourt, à savoir Eric Emmanuel Schmitt, Tahar Ben Joloun, Pascal Prunker et Pierre Assouline. Selim Nassib, né à Beyrouth, dans une famille juive, a renoncé lui aussi au déplacement à Beyrouth Livre. Mercredi, le quotidien libanais Al-Akhbar a publié un article se félicitant du désistement des auteurs sous le titre « Beyrouth tient tête aux sionistes ». Le ministère de la Culture nous a assuré de son soutien complet pour l'organisation de ce festival qui a pour but de remettre en valeur le rôle de Beyrouth comme capitale culturelle, a en outre déclaré à l'AFP Sabine Sirotino, directrice de l'Institut français du Liban qui organise l'événement. La programmation ambitieuse du festival se maintient, a-t-elle souligné. L'Académie Goncourt nous a assuré qu'elle allait honorer l'engagement pris Le président Didier Decoin se déplacera à Beyrouth pour annoncer les finalistes du prix le 25 octobre.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision, de Presse TV, ici à partir de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de la résistance au Moyen-Orient et notamment l'arrivée du Hamas en Syrie. Étant venu voir M. Bachar al-Assad, le président syrien, comme d'habitude concernant nos débats, nous avons d'abord un petit reportage à vous proposer et par la suite, nous ferons venir nos invités, notamment des invités en système vidéo. Ce que je vous propose à l'heure actuelle, c'est donc de mettre en place le reportage.
Le président syrien Bachar al-Assad a reçu le 19 octobre une délégation de représentants de factions de la résistance palestinienne, dont un responsable du mouvement Hamas, à Damas. Khalil al-Haya, le chef adjoint du mouvement Hamas à Gaza, a déclaré que la rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad a été chaleureuse. Il a exprimé sa détermination à apporter tout le soutien de la Syrie au peuple palestinien et à sa résistance. Un jour auparavant, le Hamas avait confirmé qu'une délégation de la direction du mouvement arriverait à Damas le 18 octobre pour une visite officielle pour la première fois en 10 ans. Cette visite intervient après la tenue de négociations privées entre le Hamas et les dirigeants syriens sous la médiation du Hezbollah au cours desquelles ont été évoquées les raisons pour lesquelles le mouvement a quitté Damas en 2012. Lors de sa rencontre avec le président Assad, le responsable palestinien a déclaré que cette visite est une preuve éclatante que l'esprit de la résistance est renouvelé, adressant une lettre de défi à l'occupation israélienne selon laquelle le rassemblement est une réponse à ses projets. La rencontre avec Assad est un jour glorieux et à partir de maintenant, nous allons reprendre notre présence à Damas pour travailler aux côtés du peuple syrien pour retrouver la stabilité du pays, a ajouté Haya. Selon Haya, les représentants des factions palestiniennes ont assuré à Assad qu'il se tenait aux côtés de la Syrie et de son intégrité territoriale contre toute agression qui la vise. Nous supprimons toute action individuelle qui n'a pas été approuvée par la direction du Hamas et nous avons convenu avec le président Assad de tourner la page sur le passé, a déclaré le chef adjoint du mouvement Hamas. Par ailleurs, le responsable palestinien a précisé que le Hamas a informé les pays avec lesquels il entretient des relations de sa décision de rétablir les liens avec la Syrie, expliquant que cette décision a été prise par le Hamas seul. Il a également salué le rôle de la Syrie dans la région, soulignant que la relation avec Damas donne de la force à l'axe de la résistance et à tous ceux qui y croient. Le Hamas a également publié une déclaration exprimant son appréciation du leadership de la Syrie et de sa position de soutien au peuple palestinien dans sa lutte contre Israël. En 2008, la Syrie a accueilli plusieurs commandants militaires du Hamas pour des recherches sur les drones et les missiles et les a aidés à améliorer leurs drones de surveillance et de combat.
Alors, chose qu'on oublie très souvent en parlant du Moyen-Orient et de la Palestine, c'est que la Palestine n'est pas le seul à devoir supporter la colonisation israélienne, puisque la Syrie est également victime de ce genre de colonisation illégale. Maintenant, nous allons accueillir donc nos deux invités. Notre première invitée étant Madame Aïssar Midani, notre experte politique, directement basée à Damas. Bonjour, Madame Aïssar Midani.
Bonjour à vous, à votre équipe, et merci de votre invitation et à tous les auditeurs.
Deuxième invité étant notre expert également en questions politiques, M. Amrouni. Bonjour, M. Amrouni.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité et bon vendredi à tout le monde.
Merci à vous. Alors la question d'aujourd'hui a été forcément la rencontre de cette semaine entre le Hamas et Bachar al-Assad, président syrien. Je viens d'indiquer qu'il n'y a pas que la Palestine donc, qui est victime de la colonisation illégale de l'entité sioniste, puisque la Syrie dans le Golan est également victime de ce genre de colonisation illégale. Madame Aïssa Rahmidani, pouvez-vous faire le point sur l'importance de cette rencontre qui a eu lieu cette semaine ?
C'est un retour du Hamas, effectivement, c'est quelque chose d'assez historique, je peux dire. C'est une journée historique, dans la mesure où c'est le retour du Hamas vers la Syrie. La Syrie n'a jamais changé de position vis-à-vis de la résistance palestinienne. Elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis toujours. Depuis ses premières formations, je dirais, dans les années 60, 68, 70. Hein. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie et dans la politique syrienne. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le début du printemps arabe, tout ce qui est tristement appelé printemps arabe et qui s'est avéré une véritable catastrophe pour les pays arabes, le début en 2011-2012, on a vu certains dirigeants du Hamas aller dans le sens effectivement de la l'agression, même de la Syrie. Ils étaient inféodés un peu à la Turquie, un peu à Qatar, et ils ont effectivement commis de grosses erreurs, y compris contre le peuple palestinien, contre le peuple syrien. Le camp à Yarmouk a été ouvert à Daesh, parce que en fait à l'époque ils pensaient peut-être que c'était effectivement un mouvement pour la démocratie et pour la liberté, et au fur et à mesure que le temps est passé, ils découvrent leurs erreurs et en fait depuis quelques mois ceci dit, Israël, pendant toute cette période, n'a pas arrêté d'agresser aussi bien la Syrie que la Palestine, et en particulier Gaza, Al-Quds, Jérusalem, le peuple palestinien. Pendant toute cette période, la Syrie n'a jamais changé de position. Elle a soutenu la position de lutte du peuple palestinien contre l'agresseur israélien. Et c'est ce que la Syrie affirme toujours, que de toute façon affirme toujours son soutien malgré cette guerre ignoble dont elle a fait l'objet venant de tout un tas de pays, 101 pays dans le monde qui ont dépêché des terroristes qui sont venus agresser la Syrie, y compris des pays voisins, donc en partie donc la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, une partie des forces politiques libanaises aussi ont rejoint toutes ces hordes, qui visaient à détruire la Syrie.
Or, merci,
la Syrie a tenu bon et a été victorieuse, et aujourd'hui, les uns et les autres refont leurs calculs.
Merci Madame Aïssa Rahmidani. Monsieur Amrouni, vous qui êtes basé sur Paris, on voit cette dernière année en particulier une unification finalement des fronts, que ce soit de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, jusque même vers l'Asie. On voit donc que malgré les guerres politiques, les guerres militaires et les guerres psychologiques dont ont dû faire face ces différents peuples, eh bien cette unification a été possible ou est en train d'être possible.
Bien sûr, je reviens sur la question palestinienne et la Syrie. Il faut savoir que la question palestinienne est au centre de la politique syrienne, que ce soit la politique intérieure ou même extérieure. Donc le retour de Hamas vers la Syrie, c'est un grand événement. Ça montre très bien le réalisme de la politique syrienne et la vision stratégique du président Assad. Il faut bien comprendre cette vision du front de la résistance en tant que groupe, en tant qu'individu, en tant qu'État. Et ce front, il résiste face à la guerre psychologique, face à la guerre politique, face à la guerre économique et face à la guerre militaire tout court. Donc on est vraiment dans la guerre globale. Et cette visite va remettre en place, si vous voulez, le centre des forces de la résistance. Parce que le centre des forces de la résistance, c'est la Syrie. C'est pour ça que la Syrie, elle était attaquée, comme votre invité l'a bien précisé, par une centaine de pays. Et en plus, c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, tout l'Occident presque, qui a voulu détruire la Syrie pour remettre en place, si vous voulez, un régime qui sert donc la politique israélienne et même mettre un autre État comme Israël, que ce soit un État kurde ou un État islamo-sunnite, entre parenthèses. Donc, le front de la résistance a bien répondu, a bien résisté. Donc, c'est une victoire. Lorsqu'on envoie Hamas à la rencontre du président Bachar el-Assad, c'est une reconnaissance de la victoire de la Syrie, c'est une reconnaissance de la victoire du front de la résistance. Par contre, à l'intérieur même de la Palestine, on voit bien le changement du caractère de la résistance. Aujourd'hui, on a des jeunes Palestiniens comme le grand martyr Adey, qui nous a montré à tous et surtout à la jeunesse palestinienne qu'il y a aujourd'hui une autre forme de résistance, il y a aujourd'hui une façon de résister de la jeunesse palestinienne qui déborde des organisations comme Hamas, comme le Jihad, comme le Fatah et comme le Front démocratique. Donc on a une nouvelle génération qui demande de nous de venir en aide et donc d'être en front uni. Est-ce que le président syrien a compris ce que le président Al-Assad, il reprend, si vous voulez, la maîtrise de la résistance arabe, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, au Yémen, ou même en Irak, et même au Liban. Donc on a une reconcentration, si vous voulez, un retour vers les sources, dans la Syrie, à Damas, qui devient la capitale de la résistance dans la région.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, Madame Aïssa Miladi, étant donné que vous êtes vous-même à Damas, donc sur le territoire direct de la Syrie, il ne faut pas oublier que la Syrie sort quand même de 10 ans de guerre. On parle pas seulement donc d'une guerre militaire, mais également de sanctions, d'embargo. Il faut dire qu'entre la Syrie et l'Iran, il y a quand même une grande différence parce que l'Iran est industrialisé, ce qui n'est pas forcément complètement le cas pour la Syrie. Donc, ce genre d'embargo et ce genre de sanctions ont été beaucoup plus durs à supporter pour les Syriens. Est-ce que vous, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Syriens à l'heure actuelle en voyant toutes ces résistances finalement s'unifier? Ils sont plus seuls face au combat, face aux choses et aux pressions qu'ils ont subies. Qu'est-ce que disent les Syriens à l'heure actuelle?
Alors, je voudrais préciser d'abord, la Syrie n'est pas seulement sous embargo. Elle sort de 10 années de guerre destructrice. Au plus fort, en fait, qui a détruit toute la structure, l'infrastructure, qui a détruit énormément de choses, qui continue à voir ses ressources pillées, puisqu'il y a une occupation américaine autour des puits de pétrole et de gaz dans le nord-est de la Syrie, et que ces Américains s'appuient sur des bandes de mercenaires qui se font appeler FDS et qui se font taxer de Kurdes, alors que ce ne sont ni des nationales, ni des Syriens, ni des démocrates, mais ce sont purement et simplement des mercenaires, que la Turquie occupe aussi une partie dans le nord de la Syrie et avec Idlib, qui sont vraiment les greniers de la Syrie, qui ont procédé à des destructions, au-delà des destructions des cultures, mais aussi à polluer les eaux, polluer les terres et à faire vraiment des processus, je dirais, pratiquement d'extermination. Ils arrêtent l'eau, ils pillent l'eau du pays par le biais de l'Euphrate, ils arrêtent les eaux de l'Euphrate, ils arrêtent les circuits de distribution d'eau. Je rappelle quand même que la ville de Hasakeh, avec sa campagne, sont privées d'eau aujourd'hui pour le 80e jour, donc sans que personne ne réagisse. Ils n'ont pas d'eau potable et l'État syrien essaye de parer à tout ça par tous les moyens. Donc il y a une guerre vraiment qui est énorme. Ajoutez à ceci donc un blocus important sur toutes les actions que peut mener la Syrie avec les autres pays et les relations avec les autres pays. Mais heureusement que donc la Syrie continue à résister. La Syrie est aussi un peu, elle est au centre de l'axe de la résistance de l'ensemble de la région. Grâce à nos amis l'Iran et la Russie, nous arrivons à avoir aussi des aides qui permettent aussi à la Syrie de vivre et au peuple syrien de vivre et de reconstruire à l'ombre de cet embargo horrible et criminel qui empêche tout, toute vie et qui empêche toute transaction avec les autres pays. On ne peut pas exporter, on ne peut pas importer, etc. Le peuple syrien résiste aussi en construisant et aussi en améliorant ses agricultures de manière à ce qu'on redevienne un pays autosuffisant comme on l'a été en 2010, avant que ces agressions et cette guerre horrible ne commencent. Nous étions autosuffisants et nous n'avions pas un centime de dette. C'est ce qui déplaît énormément aux forces hégémonistes.
Il ne faut pas oublier que c'était un pays touristique aussi. Beaucoup de tourisme venait en Syrie. Il y avait Exactement. Énormément de lieux historiques. Alors, la mentalité des Syriens à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a de l'espoir, outre le fait qu'ils ont résisté pendant 10 ans, outre le fait qu'Assad est revenu aux dernières élections présidentielles extrêmement fort, avec une unité bien forte au sein du peuple syrien, avec ces dernières nouvelles de comportement de la résistance qui veut plus se lier avec les autres pays, les autres groupes de résistance, quelle est cette mentalité à l'heure actuelle en Syrie ?
Alors, je voudrais vous dire quand même, le peuple syrien n'a jamais perdu vraiment confiance. On a toujours eu confiance dans les directives et dans l'orientation du président Assad, qui, lui, a une vision stratégique qui est extrêmement importante et extrêmement claire, basée autour de la résistance et de la libération de l'ensemble du pays et de l'ensemble des pays arabes. Parce que la libération du Golan, la libération aussi de toute parcelle de la terre syrienne, aujourd'hui de l'occupant turc et de l'occupant américain. Donc, le peuple syrien continue à résister. Et il résiste dans l'espoir, je dirais, et dans la positivité. Ce retour à l'unité, si on peut dire, ce retour des Palestiniens vers la Syrie, qui aussi, en même temps, va dans le même sens qu'un retour même aussi des peuples arabes, etc. Je voudrais dire que la Syrie a donné espoir aux Palestiniens. C'est pas un hasard aussi que les luttes des peuples palestiniens soient démultipliées depuis que la Syrie a commencé à enregistrer victoire sur victoire. Ça, d'une part. Et d'autre part, je crois que l'Algérie aussi, le soutien de l'Algérie au peuple palestinien, au peuple syrien, et le soutien de nos amis de Hezbollah, qui est infaillible aussi à la Syrie, le soutien de nos amis iraniens, aussi permet de remporter ces victoires et a permis d'ailleurs, il faut le dire, de transformer le monde, hein, puisque ce monde qui était monopolaire et assujetti au diktat américain et à l'hégémonisme américain et des pays de l'OTAN, des pays occidentaux, a été cassé par cette résistance de la Syrie, par le fait que le plan du nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté. Le plan américain Nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté comme il le voulait. Au contraire, il a échoué par cette victoire de la Syrie. Et donc, la Russie, ayant intervenu à la demande de la Syrie en Syrie dès 2015, a pu aussi être partie prenante de l'échiquier international des décideurs, je peux dire. Et donc, maintenant, on voit que la Russie, dans cette lutte qu'elle mène contre les agressions de tous les pays de l'OTAN, elle a changé le monde. Le monde s'est transformé. On est en phase de naissance du monde multipolaire, ce qui va donner beaucoup plus, peut-être, de justice et de liberté à tous les pays qui aspirent à cela.
Merci,
et
Madame Midani.
Les pays qui aspirent à être autonomes, souverains et forts.
Merci, Madame Midani. Alors, Monsieur Amrouni, vous êtes à Paris. Il est vrai qu'on oublie que dans quelques semaines va avoir lieu le sommet de la Ligue arabe. Donc, est-il possible que la venue du Hamas en Syrie soit en lien avec ce fameux sommet qui va avoir lieu à Alger ?
C'est un sommet très intéressant, très important, mais il n'y a pas de lien entre la venue des Palestiniens, l'effort algérien, le retour de l'Algérie sur la scène internationale, sur la politique étrangère arabe. L'Algérie, elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis son indépendance et même avant. Et aussi, elle a soutenu la Syrie. Et donc, le sommet arabe, la Ligue arabe qui va se tenir à Alger, je pense, bon, on n'attend pas trop de choses de ces pays arabes, parce que malheureusement, la résistance des pays qui résistent ne sont pas représentés dans cette Ligue arabe. Et cette Ligue arabe, malheureusement, elle était complice, si vous voulez, de l'effort de l'OTAN à détruire la Syrie, à détruire la Libye, à détruire l'Irak, à coloniser le Yémen. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe dans les sommets de la Ligue arabe, qu'elle est morte depuis longtemps, en fait. Et c'est pour cette raison qu'on voit la stratégie du président Al-Assad. Même l'effort des Algériens, ils ont voulu que la Syrie soit présente, ce qui a causé quelques effrayements par rapport à certains pays arabes, comme l'Arabie saoudite ou même l'Égypte, qui ne voulait pas la présence de la Syrie, mais le président syrien, il voit très très bien que cette ligue, elle est morte, parce qu'elle ne se sert à rien. À quoi elle a servi pendant 12 ans, cette ligue? Je me demande à quoi elle a servi. Elle a servi absolument à rien. Donc,
oui, mais avant excusez-moi de vous interrompre, M. Amrouni, mais si vous regardez les faits ces dernières semaines, Mme Midani peut-être pourrait confirmer, mais nous avons vu donc l'Arabie saoudite faire un pas en arrière avec l'OPEP+, faire un pas en arrière vis-à-vis des États-Unis, mais cette fois bien clair, hein, non pas flouté. Nous avons vu également d'autres réactions de la part de certains pays arabes. Tout le monde pensait que certains pays arabes ou maghrébins ne viendraient pas à ce sommet. Finalement, je crois qu'il n'y a aucune annulation. Tout le monde va venir, alors que si on écoutait l'actualité internationale, l'Algérie ne faisait pas l'unanimité lors du sommet. L'Algérie s'attendait à avoir énormément d'invités à ne pas venir. Et finalement, on en est à 2 semaines avant le sommet, aux alentours de 2 semaines. Et presque tout le monde va venir, en fait.
Malgré, il y a eu combien de sommets depuis 30 ans ou 40 ans de cette Ligue arabe? Et depuis à peu près 40 ans, on est agressé par l'OTAN, on est agressé par les États-Unis, nos terres sont colonisées. 75 ans, ça fait 75 ans que la Palestine est colonisée, le Golan syrien, la guerre au Liban. Donc, en réalité, cette Ligue arabe, elle ne sert absolument à rien. Et le repositionnement de l'Arabie saoudite, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle veut entrer dans le BRICS, par exemple, et même à Shanghai, et même à d'autres organisations qui sont créées par les Russes et par les Chinois. Donc la Ligue arabe créée par les Britanniques, elle se sert absolument à rien.
Merci, monsieur Amrouni. On manque de temps. Sommet-là. On manque de temps. Madame Midani, une conclusion peut-être par rapport à ce que monsieur Amrouni vient de dire?
Oui, moi je pense qu'effectivement les efforts de l'Algérie dans l'organisation de cette réunion de la Ligue arabe a été un effort important et qu'il faut saluer, qui était un effort sous le titre et dans l'axe de la réunion, de réunir toutes les forces, tous les pays arabes sur une même position qui est la position de soutien à la Palestine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a eu aussi de grands efforts pour unifier les positions des factions palestiniennes elles-mêmes. Donc, un effort qui a été déployé, qui est démesuré aussi, et qui a fini par la signature d'un accord entre les différentes factions.
Merci, Madame Midani.
Et c'est tout à fait louable. On peut dire qu'on avance, en fait, dans ce panorama de construction multipolaire, on avance vers une autonomisation de plus en plus importante, même des alliés.
C'est ce qu'on espère tous. Malheureusement, le débat s'arrête ici. Je suis désolée de vous interrompre. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Malheureusement, notre débat s'arrête ici. À voir dans les semaines futures si vraiment une union réelle peut se faire parmi les pays arabes. C'est à vous de voir, c'est à nous de vous en parler. À très bientôt pour un prochain débat sur Presse TV.
Afrique économique.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'émission Afrique économique de cette semaine. Vers l'ouverture d'une nouvelle université au Sénégal, l'offre de formation sénégalaise dans l'enseignement supérieur pourrait bientôt s'enrichir. Le pays s'achemine vers l'ouverture d'une nouvelle université dans la partie orientale. Lors du Conseil des ministres du mercredi 19 octobre, le président Macky Sall a donné des instructions au sujet de la préparation des programmes de formation et du site de la future université. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'entamer la réflexion sur les curricula et les sites d'installation de la future Université du Sénégal oriental, peut-on lire dans le communiqué final du Conseil. Le projet de création d'une université dans l'est du Sénégal n'est pas nouveau. C'est en 2013 qu'a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de cette université. Cette cérémonie a eu lieu dans une ambiance de revendication menée par les députés des régions orientales qui avaient fait plier le président Macky Sall arrivé au pouvoir un an plus tôt. Cette décision sonne donc comme une victoire pour les ressortissants de la région qui depuis quelque temps multiplient les appels et pétitions pour faire bouger le président. À bon vent baptisé l'initiative pour la construction de l'Université du Sénégal oriental a récemment lancé une pétition adressée au ministère de l'Enseignement supérieur en vue de la création de cette université. La pétition en ligne compte à date 3203 signataires. Au Cameroun, Camtel recrute des entreprises locales pour optimiser. En partenariat avec des sociétés pour l'exploitation de la fibre optique dont il a le monopole, Camtel aiderait à l'accroissement du taux de pénétration de l'Internet à haut débit fixe et mobile au Cameroun. Camtel, l'opérateur historique des télécoms au Cameroun, a lancé le recrutement de sociétés locales pour l'exploitation de son réseau de fibre optique à Yaoundé et Douala, les deux principales métropoles du pays. La principale mission de ce partenariat est la saturation de l'ensemble des ports existants au 31 décembre 2023 en permettant aux opérateurs partenaires d'avoir droit d'usage partiel sur les lignes fibre optique d'un immeuble, explique l'entreprise. Les sociétés locales optant pour les opérations d'installation devront être munies de leur agrément comme prévu par la loi régissant les communications électroniques. Les candidats doivent déposer leur dossier au siège de Camtel à Yaoundé au plus tard le 11 novembre 2022. Investir au Cameroun explique que cet appel à partenariat est lancé par la Camtel dans un contexte où le Cameroun n'exploite pas suffisamment ses infrastructures télécoms pour développer ce secteur. Le pays est pourtant présenté comme un hub sous-régional en la matière, au regard des 5 câbles sous-marins à fibre optique auquel il est connecté. La Côte d'Ivoire et le Ghana boycotteront la réunion de la World Cocoa Foundation la semaine prochaine. Les régulateurs du cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana boycotteront les réunions de l'industrie à Bruxelles la semaine prochaine en raison d'un différend sur le différentiel d'origine ou prime pour les contrats de la campagne 2023-2024, en déclaré à Reuters des responsables des régulateurs. Les deux pays qui produisent ensemble plus de 60% du cacao mondial ont augmenté leurs primes pour la saison à venir, alors qu'ils intensifient leurs efforts pour lutter contre la pauvreté des agriculteurs. Mais ils disent que les multinationales du chocolat résistent à payer des prix plus élevés. Le directeur général n'assiste pas à la réunion de la World Cocoa Foundation en Belgique et aucun des dirigeants du Cocoa Board n'y sera, a déclaré Fifi Boifo, porte-parole du Cocoa Board au Ghana. Yves Brahimakon, directeur général du Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire, a également déclaré qu'il n'assisterait pas à la réunion de la World Cocoa Foundation ni à aucune autre réunion de l'industrie en signe de protestation. En Afrique du Sud, les plateformes d'échange de crypto-monnaies devront demander des licences en 2023. Après le classement des crypto-actifs en tant que produit financier, l'Afrique du Sud veut désormais encadrer les activités des plateformes d'échange de crypto-monnaies sans pour autant donner cours légal à ces monnaies numériques. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies devront demander des licences entre le 1er juin et le 20 novembre 2023 pour pouvoir opérer légalement en Afrique du Sud, a annoncé l'autorité de conduite du secteur financier, un organisme de régulation du secteur financier sud-africain, jeudi 20 octobre. Le classement des cryptoactifs en tant que produits financiers ne signifie pas qu'ils ont désormais cours légal en Afrique du Sud, a déclaré Eugène Dutois, chef du département des cadres réglementaires de l'autorité, lors d'une conférence de presse. Nous ne légitimons pas les cryptoactifs, nous leur donnons pas une crédibilité, a-t-il insisté. Selon les experts, le classement des actifs cryptographiques en tant que produits financiers doit permettre une réglementation de ce marché en plein essor en Afrique du Sud pour empêcher les fraudes, le vol, le blanchiment d'argent et l'affaiblissement de la politique monétaire. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale sud-africaine, Kuben Nedou, avait annoncé en mai dernier que l'Institut d'émission travaille avec d'autres régulateurs sur une réglementation des cryptoactifs qui devrait entrer en vigueur dans un délai de 9 à 15 mois. Depuis Abidjan, 500 banques publiques de développement appellent à une coalition forte et active face aux enjeux climatiques. Le sommet Finance en commun qui s'est tenu du 18 au 20 octobre à Abidjan était l'occasion pour plus de 500 banques d'échanger et partager leurs expériences en matière de financement climat. La question de la transition énergétique en Afrique était au centre des débats. Nous avons tout en commun et c'est seulement en commun que nous forgerons la puissance d'une finance climatique mondiale aux transitions justes, vertes et positives. C'est tout l'objet de ce sommet qui ne doit pas être un sommet de plus, un sommet vague, un sommet de paroles et de promesses, mais un sommet d'engagement, d'actes, de courage et d'audace. C'est sur ces mots que Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, donnait mercredi 19 octobre le coup d'envoi de la troisième édition du sommet Finance en commun au centre des conférences du Sofitel d'Abidjan. L'événement, co-organisé par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement pour la première fois en Afrique, a réuni pendant 2 jours plus de 500 banques publiques de développement dans le monde autour de la thématique de la transition énergétique juste en Afrique. Alors que les promesses d'accompagner l'Afrique dans sa transition énergétique et à faire face au réchauffement climatique peinent à être tenues, les banquiers du développement veulent surtout d'une seule voix changer la donne et mettre le pied sur l'accélérateur.